Question d'Islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de traduction de textes sacrés et tout particulièrement de la traduction de la référence première pour les musulmans à travers l'histoire et de par le monde, c'est-à-dire la traduction du Coran. Le sujet n'est pas nouveau. L'intérêt de ce sujet maintenant, c'est que nous l'abordons avec un traducteur, médiéviste, philosophe, Omar Merzoug. Omar Merzoug, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler de cette traduction-trahison nécessaire ou conjoncturelle ou accidentelle. Mais j'ai cru comprendre qu'on ne peut jamais traduire un texte, quel qu'il soit, a fortiori, quand il est considéré comme un texte d'une particularité qui le sacralise.
En effet, alors ça c'est une très très vieille problématique et qui devient beaucoup plus porteuse d'enjeux quand il s'agit effectivement d'un texte sacré, c'est-à-dire qui enfin, en fin de compte, décide du destin, des choix existentiels de multitudes, et en particulier de millions de personnes. Alors, dans la tradition culturelle occidentale comme orientale, il est bien connu que dans toute traduction, il y a une perte du message, que le texte soit un texte littéraire ou un texte religieux, ou quelle que soit la nature de ce texte, eh bien, il est évident, et tout traducteur d'ailleurs le sait, on s'épuiserait à vouloir traduire l'ensemble des éléments d'un texte, parce que dans un texte il n'y a pas que le sens, il y a aussi une pluralité de dimensions qu'on ne peut pas prendre en compte entièrement et dans leur totalité.
Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a des textes, vous avez parlé de littérature, je parlerai de poésie, qui dit poésie dit création, créativité, là, assurément, on perdra tout le moins la sonance, la rime, entre la langue dite de départ et la langue d'arrivée. Certains disent la langue d'origine et la langue cible. Donc, pour la poésie, les choses sont claires, parce que les langues n'ont pas nécessairement le même génie. Pour les autres textes, il y a aussi la question de l'intonation, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un texte froid comme ça. Il y a ce qu'il y a derrière, et quand on n'a pas le locuteur premier, si ce n'est pas lui qui est traduit, forcément, il y a une perte de sens.
Alors, il y a le sens, il y a la couleur, il y a le goût, il y a la saveur, il y a le...
D'un texte ?
Oui, il y a le monde, parce que tout texte, en fait, c'est une ouverture sur tout un monde, donc il y a une dimension sociologique, anthropologique, tout ça, c'est à prendre en compte. Et la difficulté est d'autant plus grande quand il s'agit d'une part de langues qui n'appartiennent pas à la même famille et d'autre part de textes qui sont anciens. Plus le texte est ancien, plus la difficulté est grande. Alors, vous avez parlé de la poésie. Alors, moi, j'en ai fait directement l'expérience quand j'ai traduit en pleine guerre civile algérienne à Abou Nawas.
Oui,
qui est un auteur qui n'est pas du tout bien vu de l'orthodoxie. On imagine facilement les raisons. Et donc, j'ai bien vu, effectivement...
Les auditeurs ne connaissent peut-être pas nécessairement les raisons. Nous les connaissons, vous et moi. Une certaine orthodoxie qui est devenue drastique à un moment donné, elle a bien vécu,
y compris
dans l'orthodoxie.
Tout à fait.
Pourquoi est-ce qu'il est mal vu à Abou Nawas ?
Alors, il est mal vu depuis que le monde de l'islam vit un certain raidissement, une certaine crispation qui est due à la renaissance d'un certain néo-hanbalisme, néo-wahhabisme, néo-salafisme, disons. Pour employer un terme qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. Donc depuis cette crispation, effectivement, des poètes comme Abou Nawas sont mal vus. Donc pour revenir à la question...
Il est mal vu parce qu'il se donne à des libations, oui. Parce qu'il chante les rapports charnels aussi bien avec les garçons qu'avec les filles, etc. C'était dans mon esprit pour voilà. Cela que Abou Nawas est mal vu. Et donc vous avez voulu le traduire et vous avez eu des difficultés à faire passer le sens.
Voilà, alors tous les textes ne sont pas d'une difficulté égale. Il y a des textes qui passent assez facilement en français, mais il y en a d'autres qui passent très difficilement. Il faut déployer des trésors de patience, d'ingéniosité, de créativité. Ce qui laisse à penser, et je ne suis sans doute pas le premier à le dire, que le travail du traducteur, ce n'est pas un travail... de science, ça, c'est aussi un travail de bricolage, un travail où il faut trouver un certain nombre de formules, un travail où il faut être capable de tomber sur des trouvailles, etc. Donc c'est aussi du bricolage. Hein, c'est pas...
Et alors, que faites-vous lorsqu'il n'y a pas de stricte synonymie entre les deux langues, celle de départ et celle d'arrivée ? Donc vous faites appel, vous recourez à des périphrases.
Alors, soit il y a le recours à la périphrase, soit j'essaye de me mettre dans la situation suivante. Je me dis, si tel ou tel auteur avait été français, comment aurait-il exprimé la chose ?
Donc vous tenez compte de la psyché globale et du contexte.
Oui, ah oui, quand c'est possible, oui.
Le contexte à la fois de la réception du discours, quel qu'il soit, mais aussi... Quand je parle de psyché, du contexte supposé ou réel du moment de l'auteur qui serait dans la configuration, dans la langue d'arrivée.
En fait, une fois le sens du texte établi, une fois que je me suis assuré qu'il n'y a pas de contresens, de faux sens, etc., eh bien, à ce moment-là, je me dis comment... L'auteur, s'il avait été français, anglais ou italien, enfin, tout dépend du traducteur, de la langue vers laquelle on traduit, comment aurait-il exprimé la chose ?
Bien. Vous avez parlé aussi de textes anciens, dont on a perdu à jamais l'auteur, on n'a plus l'intonation. Il y avait des textes eux-mêmes qui étaient dépourvus de ponctuation, de vocalise, de points diacritiques, on a dû les fixer comme ça, on n'est même pas sûr des sens premiers. Et déjà dans la langue elle-même, le fait de fixer le sens est déjà un choix.
Ah, certainement.
A fortiori quand il s'agit de traduction.
Certainement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on procède d'abord à l'établissement critique du texte avant de le traduire. Donc c'est tout à fait... si un texte est dépourvu d'un certain nombre de dimensions que vous dites, là, l'intonation, les signes diacritiques, etc., ben, il est illisible. Hein.
Et surtout la ponctuation. Oui. Alors, j'ai cru comprendre, mais je le dis sous votre contrôle, que la ponctuation a un double rôle. Le premier est celui de la respiration, mais le second est surtout de portée logique.
Oui, c'est ça, absolument, de portée logique pour... Parce qu'il suffit de modifier une virgule, un point, pour que le sens d'un texte prête à équivoque ou devienne même autre, le sens d'une phrase.
Et pour la respiration, on ne respire peut-être pas au même endroit dans les deux langues.
Non, aussi. Bien sûr, bien sûr.
Donc il y a aussi cette difficulté.
Absolument, tout à fait.
Peut-être avant d'entrer particulièrement dans le cas du Coran, qui nous intéresse dans cette émission... J'ai cru comprendre aussi, et vous en avez fait part, vous prenez Al-Jahiz, c'est un prosateur, un polygraphe, un littérateur de génie, 776-868, un homme dit de l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, et qui dit « il faut que le traducteur maîtrise les deux langues, et pour lui ça paraît impossible, concomitamment. »
Oui, oui, oui. Alors, en général, la tradition culturelle arabe n'aime pas beaucoup la traduction. Elle a, vis-à-vis de la traduction, des rapports extrêmement compliqués. Alors, vous avez pris le cas d'Al-Jahez, qui est effectivement un polygraphe de génie, et qui appartient surtout...
Pardon, Al-Jahez est un surnom. C'est oui. L'homme aux yeux exorbités, voilà, parce que, bon, il avait cette laideur-là, mais c'était un homme de génie.
En tout cas, c'est le nom sous lequel il est connu.
Et qui est mort sous le poids de ses livres.
Voilà, exactement.
Quelle belle mort pour un littérateur, mais bon...
Et donc, il était aussi, il faut le signaler, il était de tendance rationaliste, mu'tazilite. Donc, c'est un homme des Lumières, musulman en quelque sorte, pour aller vite. Donc, Al-Jahed, effectivement, a beaucoup, s'est beaucoup préoccupé de cette question de la traduction, d'autant qu'il vivait à une époque où on traduisait le legs grec en arabe. Et il avait tendance à considérer qu'effectivement un traducteur devait maîtriser à la perfection les deux langues et devait même égaler l'auteur en perfection, en science, etc. Et comme c'est impossible, donc il a évidemment...
Ce n'est qu'un pis-aller pour
voilà,
lui.
Ce n'est qu'un pis-aller. Ce n'est qu'un pis-aller. Et donc jamais, alors il cite un certain nombre de traducteurs qui dit oui, mais ces gens-là n'égaleront jamais Aristote, ces gens-là n'égaleront jamais Platon.
Oui, on était en pleine période, en pleine effervescence de traduction, le début de la fameuse Translatio Studiorum, voilà. Et on venait du grec, si je puis dire, à l'arabe, soit directement, soit via le syriaque, et Al-Jahez, semble-t-il, déplorait la perte en ligne dans ses traductions.
Alors, il déplorait la perte en ligne et il disait même, en citant un commentateur du Coran, qui à la fois glosait les versets en arabe et en persan, il disait, voilà, ce type, finalement, Al-Uswari, il était parfait, il connaissait à la perfection l'arabe, il connaissait à la perfection le persan, il se tournait à droite pour expliquer aux uns ce qu'il fallait comprendre par tel ou tel
passage. C'était les arabophones
voilà,
et puis les
persanophones, etc. Et il dit, bon, mais quand même, malgré tout, c'est une exception qui confirme la règle.
Parce qu'il s'agit de glose, il ne s'agit pas de
voilà.
Traduction
Alors,
du texte, disait-il.
Est-ce que la traduction est une glose? Est-ce que gloser, c'est aussi traduire? Voilà, le problème était déjà posé.
Alors là, vous abordez, et d'ailleurs je vous en remercie, nous y allons directement, la traduction dans les langues véhiculaires désormais de la pensée islamique. Il s'agit de musulmans eux-mêmes, mais qui ne sont pas arabes. Mais permettez-moi, Omar Merzouk, de revenir aux arabes eux-mêmes, aux arabophones eux-mêmes, lorsque le texte est amphibologique, c'est-à-dire qu'il dit oui, sens, une chose et son contraire dans une même phrase, voire dans un même mot. Alors nous avons tous à l'esprit, et voilà un Coran glorieux sur une table préservée ou une table gardée. Mmh. Est-ce qu'il s'agit de la table qui est gardée ou est-ce qu'il s'agit du Coran glorieux?
En effet, la question mérite d'être posée. Alors, en principe, on a tendance à comprendre en général que c'est le Coran qui est, en fait, on désigne par là l'archétype, le modèle du Coran dont nous ne détenons qu'une copie.
Oui, et je puis vous assurer que certains comprennent que c'est plutôt la
table
qui est gardée, Al-Lawh al-Mahfouz.
Oui.
Mais en réalité, le bon sens, du moins c'est ce que nous pensons, c'est que plutôt le Coran glorieux, cet archétype céleste qui se trouve dans l'empyrée ou dans l'apex, pour utiliser des termes un peu plus techniques, qui se trouve être lui-même préservé ou gardé.
Alors, juste un peu un détail, l'illustre théologien Abu Hamid al-Ghazali, qui est un théologien du XIe siècle, disait... pour interpréter les termes qu'un certain littéralisme a tendance à prendre évidemment à la lettre, il dit voilà, quand on dit qu'une ville est dans les mains de quelqu'un, hein, ça veut dire qu'elle est en son pouvoir, même s'il était manchot.
Oui. Oui. Il y a aussi cet autre passage. Alors, ce n'est plus sur un mot que se joue l'ambiguïté ou l'amphibologie. C'est carrément sur une phrase. C'est un peu comme lorsqu'on dit on a jugé les parents des enfants indignes. Oui. On ne sait pas s'il s'agit des parents ou des enfants. Oui. Donc, ce verset coranique, je le dis de mémoire, ce sont les tout premiers versets de 1 à 7 de la sourate 3.
Oui.
Quand il s'agit de la mère du livre, l'essence même de l'ouvrage, à la fin, ça finit par « et ne pénètre leur sens », je parle de ces versets, oui, « que Dieu et ceux qui sont enracinés dans une science profonde,
c'est ça,
disant « nous n'avons de science que ce que tu nous as donné ». Alors, qui dit ça? C'est Dieu et les hommes enracinés dans une science profonde, ou est-ce que c'est simplement les hommes enracinés dans une science profonde?
Alors,
le texte arabe ne le permet pas.
Le texte arabe permet les deux, en fait.
Oui.
Il permet les deux.
Il ne permet pas de trancher,
voilà,
je veux dire.
Voilà, il ne permet pas de trancher. Il permet les deux, et c'est peut-être pas une si mauvaise idée, d'ailleurs, parce que si je prends quelqu'un comme Averroès, dont on parle beaucoup, donc il n'est peut-être pas nécessaire de rappeler qui il est. Averroès considère qu'ont accès aux versets équivoques, aux versets difficiles à comprendre, Dieu, mais aussi
les hommes enracinés
dans le savoir. Donc, on peut travailler, on peut étudier, on peut faire de la science sur ces choses-là. Et ceux qui ont plutôt un penchant pour une lecture plus littérale, plus fermée, on considère que seul Dieu, finalement, détient la connaissance des versets équivoques. Et donc, il faut pratiquer le tafouïd, le s'en remettre à. Donc, on s'en remet à Dieu pour le sens de ces choses-là, en considérant que ça relève du raïb, alors selon les traductions, du mystère, de l'invisible, etc.
Oui, mais mon cher Omar Merzouk, ce n'est même pas une question de fermeture ou de littéralisme, c'est une question de compréhension du texte. En quoi voudrait-on trancher dans le sens que c'est Dieu seul qui détient, on peut le comprendre,
oui,
pour la majesté divine, son omniscience et son omnipotence, mais le texte ne l'explicite pas. Ce qui est curieux, c'est encore une fois la psyché de la personne qui lit, et a fortiori de celle qui traduit. Quelqu'un comme Averroès et puis les autres rationalistes comprendront que Dieu, certes, forcément comprend le sens des versets ambigus ou équivoques, et aussi les hommes doués de savoir ou enracinés dans une science profonde. Mais d'autres diront non, que c'est Dieu seul.
Oui. Alors, c'est vrai que le texte autorise aussi cette lecture. Et donc là, on est un peu suspendu dans une sorte d'indécidable.
Oui.
Alors là, ça relèverait peut-être de l'effort personnel, des choix personnels du lecteur, du croyant, oui, du fidèle, etc.
Si je vous dis, mais ça n'a plus rien à voir avec le Coran, je loue un appartement, si je ne vous précise pas que je suis le bailleur ou que je suis le locataire, que fait-on? Surtout quand il s'agit de traduction. Il faut attendre peut-être la suite du discours.
Voilà, il faut attendre la suite du discours. Je pense que ce verset, il doit être compris dans une espèce de pris dans un ensemble, dans une totalité. Mais c'est vrai que matériellement, je veux dire concrètement, le texte ne permet pas de trancher. Je vous l'accorde.
C'est la difficulté des versets amphibologiques, et c'est valable pour tout autre texte.
Bien sûr.
Et pour tout autre discours.
Silvery Nile, flow, flow, flow on Silvery Nile. Tell the world your story as you go along, singing your song of love and romance, romance and glory.
Flow, flow, flow on Silvery Nile, flow, flow, flow on Silvery Nile, through the land so wide and big.
your arms will reach through the desert lands and let them gleam, green, green and fair. Sunshine and laughter, flowers will bloom everywhere.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui de traduction, de la difficulté des traductions de textes sacrés, a fortiori du Coran, avec Omar Merzoug, philosophe, médiéviste, traducteur lui-même de textes anciens. Et pour cette deuxième partie, Omar Merzoug, nous verrons, si vous voulez bien, d'abord la traduction dans les langues véhiculaires de la pensée théologique islamique. Donc on est dans un même contexte confessionnel, dans un même horizon de sens, mais même avec ça, il y a aussi des courants de pensée, des choix théologiques et même des choix de sens. J'ai un exemple au moins, peut-être deux. Le premier, comment traduit-on, selon vous, un Coran arabe? Parce qu'ici, le mot arabe renvoie-t-il à l'ethnie ou tout simplement au sens même d'arabe qui veut dire clair, explicite, éloquent, manifeste?
Alors, je pense honnêtement que le terme arabe ne renvoie pas à l'ethnie, parce que à ce moment-là, s'il devait renvoyer à l'ethnie, eh bien, se poserait le problème de l'universalité du message. Donc, si le Coran se veut message universel, c'est-à-dire ouvert à tous ceux qui veulent bien entendre le message ou prendre connaissance du message, donc, à mon avis, le terme arabe renvoie plutôt à, non pas à l'ethnie, mais à la dimension de langue, à la dimension de culture, à la dimension, mais pas du tout au sens racial, pour le dire de manière claire.
Oui, tout simplement parce que les gens ne savent pas encore que le mot arabe en tant que tel renvoie au caractère d'être explicite, d'être éloquent, d'être manifeste, d'être clair. Et donc, le passage, nous t'avons révélé un Coran arabe, je ne comprends pas, mais ça, je vous pose la question, que même en français, mais nous y reviendrons, on garde dans la traduction, nous t'avons révélé un Coran arabe. On aurait dû simplement traduire, nous t'avons révélé un Coran explicite, ou un Coran éloquent, ou un Coran manifeste, ou un Coran clair.
Alors, je pense qu'on... on entre un peu dans l'atelier du traducteur par cette remarque. C'est-à-dire que il n'y a que deux façons, en fait, de traduire. Bon, je réduis un peu pour la commodité de l'analyse. Soit on traduit littéralement, soit on traduit les idées. Alors, vous avez deux écoles, les sourciers et les ciblistes. Voilà. Donc, ceux qui disent qu'on va traduire littéralement, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher, mais même par la chair, par l'intonation, par exemple, on a la traduction du Coran. Le Coran, bon, porte plusieurs mots, comme vous savez, dhikr, rappel, tanzil. Prenons tanzil, descente. Le Coran est une descente. Alors, vous avez maintenant toutes sortes de traducteurs qui traduisent par descente.
Oui, parce que il y a une autre difficulté à laquelle je n'ai pas pensé, mais vous m'y faites penser vous-même par cela, c'est que quand un mot est très polysémique dans la langue source, comme le Coran, qui d'ailleurs, rappelons-le, est d'origine syriaque, le substantif Coran renvoie à la fois à la notion de lecture, de prêche, de rappel, de
proclamation.
De proclamation, et dans une deuxième acception de diffusion, et dans une troisième acception même de rassemblement et de protection. Quand il s'agit de trancher et de fixer en un seul mot, il y a effectivement une difficulté à choisir.
Oui. Traduire, c'est choisir. C'est tout, on est toujours obligé de faire des choix. Alors évidemment, on essaye de faire le choix le plus pertinent, mais il y a toujours une perte du message. Alors on essaye de céder du contexte pour limiter en quelque sorte la perte des sens, du ou des sens, mais il y a toujours une perte.
Oui, et qui dit choisir dit renoncer, donc on renonce aussi à d'autres sens, bien entendu. Alors, le second exemple, comme ça il n'y aura pas un troisième, c'est celui du mot islam dans le Coran lui-même.
Ah oui.
Alors, il y a certains traducteurs, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils laissent le vocable islam, alors qu'ici il renvoie simplement à son sens, qui est surtout pas soumission, mais qui est une déprise de soi, pour une remise de soi confiante et dans la paix à. Mmh. Donc celui, par exemple, dans les deux passages où le mot apparaît clairement, celui qui ne professera pas, on ne devrait pas dire islam, on devrait dire la remise de soi à Dieu, ou l'allégeance à Dieu, ou la déprise de soi pour Dieu, ou la pacification pour Dieu, ça ne lui sera pas agréé. Comme on a laissé le mot islam, ça a donné lieu à une compréhension quasi exclusive, uniquement de ceux qui ont suivi la prédication mohammedienne.
Oui, ben là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que l'islam, c'est la prédication mohammedienne, c'est donc la charia, et inclut exclusivement, donc ceux qui n'adhèrent pas à ça.
La charia, dans son sens, l'ordre de Dieu, voilà. pas la loi drastique que nous comprenons.
Alors, il y a aussi ceux qui pensent ça, que ça doit être la loi, ceux qui n'adhèrent pas à la loi, à ses obligations, à ses contraintes, etc., ne font pas partie de...
Ne sont pas agréés, ne sont pas musulmans.
Et il y a ceux qui considèrent qu'effectivement, c'est la remise confiante, etc., et ceux sont, disons, plus ouverts, en quelque sorte.
Oui, mais encore une fois, ce n'est même pas une affaire d'ouverture ou de fermeture, c'est une affaire de sens. Je me place d'emblée sur un plan lexicographique et philologique. C'est curieux, ce qui détermine le choix du traducteur, c'est-à-dire qu'il y a tout un présupposé idéologique, et théologico-philosophique aussi, une vision du monde pour traduire.
Mais bien sûr, mais parce que les traducteurs sont aussi prisonniers de leur prénotion, de leur culture, et il arrive qu'ils projettent sur les textes leur vision du monde, leur vision des choses, ça donne ces traductions-là.
Bien. Omar Merzouk, comment dans les langues du monde musulman ont été perçues les premières traductions? Je parle des Perses, je parle des Turco-Mongols, je parle des Turcs tout court. Il y a eu une réception où l'on priait et étudiait le Coran dans ces langues-là, ou il fallait, pour certains, passer par la langue arabe?
Alors là, il y a deux plans. Il faut d'abord distinguer la nécessité pratique concrète. Donc, pour des raisons de nécessité, il a fallu traduire, forcément. Traduire à la fois le Coran, les sermons, etc. Donc ça, c'est la nécessité pratique, c'est le plan, si vous voulez, empirique. Le deuxième plan, c'est un plan différent. Alors, la question était, est-ce que le Coran lu, traduit, est encore du Coran? Donc la quasi-totalité de la tradition a répondu non.
Donc, quels sont ces arguments?
Eh ben, c'est la notion du miracle. C'est-à-dire, ce qui est exprimé en arabe ne peut pas l'être Et encore, Ibn Hazm, le grand...
Le maître andalou.
Le maître andalou, l'auteur de ce livre charmant qui s'appelle...
Le collier de la colombe. Plutôt Ibn Hazm théologien
qu'on aborde, mais pas le polygraphe. Considère que tout Coran... écrit, traduit en langue,
en quelque langue que ce soit d'ailleurs,
n'est pas du Coran d'abord, et d'autre part ne peut pas servir à l'office, à la liturgie.
Oui, on pourrait lui objecter à travers les siècles maintenant, c'est que Dieu ne parle aucune langue, sinon il les parle toutes.
Oui.
Dieu ne parle pas qu'arabe.
Non, mais justement, mais je l'ai pris. Parce que lui, c'est un théologien assez rebelle contre la tradition, et même lui considère il est dans la tradition. Alors, à part l'école hanafite qui est peut-être la plus libérale,
une des quatre écoles juridiques dans le monde sunnite,
le reste est sur la ligne du le Coran non arabe n'est pas du Coran, ne peut pas donc servir à la prière. Et donc, les non-arabes ou ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe sont invités à apprendre l'arabe au plus vite, quoi.
Ça me fait rappeler cette anecdote d'une brave dame qui ne savait pas réciter le Coran et qui priait, et on lui a dit « ta prière n'est pas agréée ». Elle a dit, elle s'appelait Mémona, elle a dit « Mémona connaît Dieu et Dieu connaît Mémona ». C'est-à-dire qu'elle elle baragouine ce qu'elle veut. Et sa prière ne peut être qu'agréée, puisqu'elle est dans une relation directe avec le divin. Ça nous fait passer cette fois-ci non plus au monde des croyants musulmans, des peuples musulmans, mais à ceux qui ne sont pas musulmans. Comment ont-ils reçu le Coran, même traduit par leurs soins ou par d'autres? Et j'ai cru comprendre aussi que vous vous êtes intéressé au cas de Saint Jean Damascène. Jean Damascène est mort vers 748-749.
Alors, le monde qui reçoit l'islam, qui reçoit le Coran à partir des conquêtes, quand la Perse est conquise, que la Palestine est conquise, que la Syrie est conquise, là, les Arabes, qui étaient les seuls à être musulmans, à ce moment-là, entre en contact avec d'autres cultures, d'autres religions. Alors, ils avaient déjà des contacts avec le christianisme et surtout le judaïsme à Médine déjà. Mais là, ils entrent en contact avec une culture marquée par l'hellénisme. Et évidemment, là se détache la figure de Jean Damascène, qui a été canonisé plus tard. Et qui, lui, donne la première, synthétise ou systématise la première réaction, si on veut, chrétienne, par rapport à l'islam et au Coran. Cela dit, il n'y a pas eu de traduction. Il a fallu attendre le XIIe siècle.
Oui, on y reviendra.
On y reviendra.
Oui. Il n'y a pas eu de traduction, mais il prenait certains passages, soit il les distordait. Il y avait une distorsion de sens, soit c'était sa compréhension, je ne sais pas.
Alors, il faut dire que le monde chrétien, comme je l'indique dans mon étude, était très divisé. Les dogmes du christianisme n'étaient pas véritablement fixés. Et donc, il y avait des querelles christologiques sur la nature du Christ. Qui est le Christ? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Mais alors, qui est son Père? Enfin, on entrait dans
le monophysisme, l'arianisme, le docétisme.
Voilà. Qu'il est mort sur la croix? Oui. Les deux sept, comme les musulmans d'ailleurs, pensent que le Christ n'est pas mort sur la croix. Et donc, il y avait toutes sortes de querelles, et ces querelles n'étaient pas simplement des querelles académiques.
Tout simplement parce que les docètes du grec d'Ocaine, il leur semblait que...
D'accord. Et donc, il y a eu une réaction. Alors, les querelles n'étaient pas simplement académiques. Il y avait aussi on en venait aux mains, des prêtres s'excommuniaient, s'anathématisaient. Enfin, et c'est dans cette époque effervescente qu'apparaît l'islam, un islam extrêmement conquérant, un islam séducteur qui a séduit pas mal de chrétiens, et le clergé voyait d'un très mauvais œil, en fait.
Ce qui est une hérésie, ou qui apparaissait voilà. comme une hérésie.
Ce qui ne pouvait de toute façon apparaître que comme une hérésie, dans l'esprit d'un chrétien de l'époque, et voyez les fidèles adopter cette hérésie, c'était quand même un scandale auquel, à mon avis, Jean Damascène va tenter de répondre. Va tenter de répondre en se focalisant, parce que c'est lui, en fait, qui dessine tous les thèmes de la polémologie chrétienne contre l'islam. Il va se fixer sur la mariologie, sur un prophète qui est un pseudo-prophète et qui, en plus, a pour la chair des penchants et des appétences qui sont évidemment inadmissibles pour un chrétien. Et donc, alors, on a choisi dans le Coran un certain nombre de thèmes, mais on ne l'a pas traduit.
Mais ce qu'on a choisi, on l'a traduit pour pouvoir pourfendre.
Alors, de toute façon...
On n'a pas traduit la totalité du Coran, mais on a traduit les versets, parfois extraits hors contexte, comme support de polémique.
Ah oui, comme support de polémique. Il fallait de toute façon, c'était de bonne guerre, hein. Il fallait de toute façon essayer de détruire en tout cas cette hérésie, entre guillemets. Et donc, tout était bon à prendre. Alors on a pris la question du mariage du prophète avec la femme de son fils adoptif, Zainab, etc., pour montrer à quel point ça ne pouvait pas être un prophète, qu'un prophète avec du sabre, ça ne pouvait pas être un prophète. La mariologie, c'est-à-dire, pour aller vite, la polygamie autorisée, ça ne pouvait pas être un prophète. Et donc, puisqu'il ne pouvait pas être un prophète, c'est forcément qu'il a été instruit. Alors, de là naît effectivement ce récit que le prophète de l'islam aurait reçu par... Alors, c'est soit un moine nestorien, soit un moine arien, le fameux Serge. Il aurait reçu ses lumières de ce fameux Serge. Et comme il n'était pas content pour un certain nombre de raisons, donc il a bricolé une espèce d'hérésie. Cela dit, je signale au passage que dans l'Église, on dit il est nécessaire qu'il y ait des hérésies. Il est nécessaire qu'il y ait des hérésies pour fixer le dogme.
Oui.
Voilà, donc c'est un détail un peu amusant.
Alors, au-delà du détail amusant, revenons en Europe, dans cette partie occidentale, on doit à Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, la première commande en latin de la traduction du Coran pour comprendre les raisons de cette hérésie par rapport à la religion vraie.
Alors, au XIIe siècle, au milieu du XIIe siècle, Pierre le Vénérable,
on
abbé
est en
de Cluny,
144.
Voilà, l'abbé de Cluny, donc, fait une visite. Il visite un certain nombre d'églises et de couvents que l'ordre de Cluny avait en Espagne. Et il est épouvanté par la puissance, par le caractère brillant de la civilisation musulmane. Et il est épouvanté aussi par le fait que les chrétiens ne connaissent pas la religion de leur adversaire, et donc il lui paraît urgent de traduire le livre qui, estime-t-il, est à l'origine de leur puissance, c'est-à-dire le Coran. Donc il détourne un Allemand, Hermann, et le fameux
Robert de Quéton. Robert de Chester.
Voilà, il les détourne de leurs travaux, parce que c'était des gens qui travaillaient à la traduction d'un certain nombre de traités scientifiques. Il les détourne, évidemment, en les payant très très généreusement. Eh bien, il les détourne de leurs travaux et leur demande de procéder à une traduction du Coran. Et le but est clair, il s'agit de pourfendre, de traduire à finalité, à des fins de pourfendre la religion de Mahomet, comme on disait à l'époque. Donc, je veux dire, le dessin, il est clair, il n'est pas dissimulé, il n'est pas caché. Pierre le Vénérable ne s'avance pas masqué. Je pense qu'il faut lui reconnaître ce...
Et si j'ose dire, c'est même une question de bon sens. Il faut comprendre le texte fondateur de ce qui s'apparente comme une déviance, une hérésie, peut-être même une religion nouvelle, mais une religion inspirée par Satan. Et il vaut mieux le comprendre. Donc, même pour des dessins de polémologie, et il faut bien pourfendre, dirimer ces thèses, et on demande à ceux qui savent, en l'espèce Robert de Ketton, Hermann le Dalmate ou le Dalmatien, ou de Carinthy, c'était aussi davantage pour les questions exactes, de sciences exactes, et Robert de Ketton, c'est davantage pour les questions théologiques.
C'est ça, absolument.
Dans l'émission Questions d'Islam, pour parler de traduction avec le philosophe médiéviste et traducteur Omar Merzoug, de la difficulté à traduire les textes d'une langue source à une langue cible, a fortiori quand il s'agit de textes sacrés, et comment fixer les sens. C'est cette problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Alors Omar Merzoug, ça c'était, nous parlions de la traduction en latin.
C'est
ça. Par la suite, dans le temps, on va passer à la traduction en français.
Voilà. Alors la traduction française, la première d'André Durier, qui se fait en plein classicisme français. Donc, alors il y a un léger changement par rapport à la perspective qui était celle de Pierre le Vénérable. Là, on... Alors, d'abord, quelque chose qu'il faut quand même signaler, c'est que André Durier, ça n'est pas un homme du sérail. C'est pas un islamologue ou le précurseur d'un islamologue, des islamologues. C'est un voyageur, c'est un diplomate. Donc, c'est quelqu'un qui a été au contact en Orient et surtout en Turquie, qui a été longtemps en Turquie, et qui a éprouvé le besoin de traduire le livre sacré des musulmans. Donc, ça ne vient pas, je veux dire, la première traduction française ne vient pas de l'endroit où on aurait pu penser qu'elle viendrait.
N'est pas une commande.
C'est pas une commande, c'est pas l'université, enfin, il n'y avait pas d'université à cette époque-là, mais c'est pas le milieu littéraire, ou le milieu philosophique, ou le milieu qui s'occupe des idées, qui a eu l'idée.
Il n'y avait peut-être pas d'université au sens où nous connaissons maintenant, mais il y avait le collège de Sorbonne, l'université de Bologne.
Voilà, ça vient pas, voilà, exactement, ça vient pas de la Sorbonne, ça vient pas de ces institutions qui existaient déjà à l'époque et qui préfigurer ce que sera l'université moderne. Donc c'est un voyageur, c'est un diplomate. Et je pense que ça a du sens. C'est pas tout à fait un hasard. Alors le changement que je voulais signaler par rapport à la traduction de Pierre, à la traduction commandée par Pierre le Vénérable, c'est que bien que André Durier s'inscrive aussi dans la perspective anti-dogme islam, anti-musulmane, etc., il n'empêche qu'il attache un souci ou il accorde un souci assez particulier au texte lui-même. D'accord ? Donc, c'est le précurseur de ce que seront les traductions plus tard, c'est-à-dire des traductions qui ne viseront pas forcément à démolir un dogme ou à orienter ou à faire des traductions tendancieuses, mais à prendre, on a déjà l'ébauche, si vous voulez, de la prise en compte du texte lui-même, en tant que tel.
Et ça va être le cas avec ses successeurs, je ne sais pas, Bibliander, Marachi, Savary...
Alors Marachi, c'est un homme d'église. Hein.
Marachi, Ludovico Marachi.
Voilà. Marachi, c'est un homme d'église. Marachi, il est encore là-dedans. Hein. Alors bien sûr, il a accordé un soin tout à fait exceptionnel au texte, etc. Et ça, mais il est encore dans la perspective de la réfutation. Hein. Alors c'est aussi la perspective d'André Durier, mais moins, beaucoup moins, je pense.
Bien. Alors, vous avez dit que c'était moins tendancieux. Pourtant, d'aucuns disent que jusqu'au XIXe siècle, notamment avec la traduction de Kazimierski, on est globalement au milieu du XIXe siècle, 1840 et quelques, ça reste tendancieux.
Alors, oui, il y a les deux, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, les choses n'apparaissent pas brusquement. Hein. Il y a une évolution, et au sein de cette espèce de polémique contre l'islam, on est quand même fasciné par ce texte et on essaye de prendre le texte en compte. Alors on ne le dégage pas tout à fait de la polémologie parce que si vous voulez, André Durier, il est pas très loin de penser que Pierre le Vénérable au fond a raison. Mais ça n'est pas pour ça qu'il faille négliger le texte lui-même. On peut montrer peut-être que Pierre le Vénérable a raison en accordant un souci particulier au texte.
Bien. On arrive au XXe siècle. Là, il va y avoir une prolifération de traductions dans les langues occidentales. Et parce qu'on n'arrive pas à se satisfaire de traductions, y compris par des traducteurs musulmans et des traducteurs non musulmans, et on est dans la périphrase, on est dans les essais de traduction, pour dénoter un peu l'humilité des traducteurs, je pense à quelqu'un comme Jacques Berck, par exemple.
Oui.
C'est-à-dire que on essaie de traduire, comme vous l'aviez dit en début d'entretien, plus le sens que d'être dans la littéralité.
Alors là aussi, les traducteurs se divisent. Là aussi, ça se divise. Je reprends mon exemple de tout à l'heure de Tenzil. Le Coran est une parole descendue. Donc, alors ce qui en arabe est naturel. Je veux dire, ça ne soulève aucune, ça ne choque personne quand on dit que Anzala a fait descendre, Dieu a fait descendre.
Il y a une parole révélée d'en haut.
Alors, la traduction française serait révélée, en fait. Mais comme on veut coller, c'est une école de traduction, c'est pour la Bible c'est pareil, c'est une école, comme on veut coller, non pas seulement au signifié, au sens, mais aussi au signifiant. Donc on dit descente.
Oui, c'est un peu l'exemple, je le dis sous votre contrôle aussi, d'un traducteur comme André Chouraki, qui non seulement traduit le Coran par l'appel, parce que ce serait beaucoup plus proche dans son sens en hébreu, et surtout, Dieu, au lieu de le présenter comme clément et miséricordieux, on le présente, ou André Chouraki le présente comme matricien, matriciel,
oui.
Parce que comme dans la langue source, en l'occurrence l'arabe, oui. La notion de miséricorde renvoie à l'utérus féminin, à la matrice, il n'y avait aucune raison de traduire le sens, mais traduire y compris l'étymologie,
oui.
Donc Dieu matricien, matriciel. Ça donne quelques lourdeurs, et puis c'est peut-être même des pertes de sens dans la langue d'arrivée.
Oui, tout à fait. Alors là, vous avez une école qui pense qu'on parle étymologiquement. Or, on ne parle pas étymologiquement. Et ça, vous l'avez aussi en philosophie, avec les travaux de Heidegger, par exemple, qui donne au terme grec un sens toujours étymologique ou quasiment étymologique.
C'est-à-dire que cette difficulté, on la trouve aussi avec d'autres textes comme l'Iliade, comme l'Odyssée, comme les œuvres aussi des philosophes hellénisants à travers l'histoire.
Et ça, je pense que c'est le présupposé de Chouraki, c'est de penser qu'on ne peut comprendre très bien ou parfaitement l'islam ou le Coran que si on ramène les mots qu'il emploie, que le Coran emploie, à ses origines hébraïques, syriaques, et Dieu sait qu'il y a un certain nombre de mots étrangers dans le Coran, ça aussi, ça a été un débat dans la tradition.
Des emprunts lexicaux au grec, à l'araméen, au syriaque, au persan même.
Voilà, il y a des emprunts, c'est certain. Donc, la position traditionnelle de l'orthodoxie qui consiste à dire avec Shaferi, qui est le fondateur d'une école juridique importante musulmane, qui dit que de toute façon, tout est en bon arabe, ça ne tient pas devant les progrès de la linguistique contemporaine. Mais ça ne préjuge en rien ou ça ne nuit en rien au Coran. Que les mots aient été empruntés ne veut pas dire que, qu'ils ne sont pas devenus arabes. Les langues sont comme ça.
Parce qu'elles sont dynamiques, elles sont vivantes, elles s'enrichissent.
Voilà, exactement.
Encore une fois, ça renvoie à ma question tout à l'heure. Dieu ne parle pas qu'arabe.
Voilà. Alors, il y a la deuxième école qui considère qu'il faut traduire le sens. Et donc, là, le danger, c'est de fabriquer des belles infidèles. C'est-à-dire, on est tellement attaché au sens qu'on commence à faire du beau et on oublie un peu le signifiant. Alors, l'idéal serait de n'oublier ni le signifié ni le signifiant, mais là, la tâche est quasiment impossible. Quoi.
Ben, nous sommes pris par la fin de l'émission. Sinon, je vous aurais posé davantage de questions sur quelle est la meilleure traduction, etc. Cette question bateau, on la laisse en suspens. Et ce sont nos auditeurs qui trancheront par la suite sur ce qu'il y a dans la prolifération éditoriale. Merci, merci beaucoup, Omar Merzoug. Chers amis auditeurs, c'était question d'islam. Nous avons parlé aujourd'hui de la difficulté à traduire les textes, et a fortiori les textes sacrés, et en l'occurrence le Coran. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pierrick Charles et la réalisation est assumée par Philippe Audouin.